c'est encore et toujours un plaisir de vous retrouver pour démarrer la semaine ensemble. On ne change pas les habitudes, ils sont deux à m'entourer, à m'accompagner. Du côté de Footpiste, ce n'est pas Xavier Bedos, c'est Monsieur 100%, Kevin Thierry, vainqueur des deux quiz auxquels il a participé. Il est là ce soir pour sa troisième apparition. Salut Kevin.
Salut Quentin.
Comment ça va?
Ça va.
Bon, au Cernim à la fin de l'émission?
Ouais, on va rentrer rapidement, ouais.
Ouais, victoire?
Ouais, obligatoire, après la désillusion contre les Herbiers la semaine dernière. Il faut remonter, essayer d'essayer d'aller accrocher... la cinquième place pour tenter la Ligue 1, on ne sait jamais, avec un peu d'espoir, on peut y arriver.
On espère pour la GIA. Et à ma droite, c'est un entraîneur que l'on ne présente plus en Occitanie, actuellement coach des U17 de Montauban, c'est Alain Coronado. Salut Alain.
Bonsoir Quentin, et bonsoir à tout le monde.
Comment ça va Alain?
Eh bien ça va, bon, je sors d'une défaite, donc pas très bien, mais bon, ça va quand même.
Nouvelle semaine, nouveaux objectifs, en espérant une voir pas la semaine prochaine du coup, puisque vous ne jouerez pas la semaine prochaine.
Ce sera un repos bienvenu d'ailleurs, donc on va se reposer et on va se préparer pour la reprise.
Pour cette 12e émission d'Oxyfoot, avant de laisser la parole à Kevin pour les résultats en Occitanie, on va justement faire un point sur les résultats de ce deuxième week-end de février sur les terrains occitans, avant de passer à l'interview d'Alain, une interview, des questions sérieuses un petit peu plus légères ensuite, la musique et enfin donc le fameux quiz. Pas de dixième question sur le football africain pour Kevin. C'est là où il a triomphé lors des deux premières éditions. On verra si Alain arrive à battre Kevin pour ce quiz. Messieurs, pour démarrer cette émission, et bien comme d'habitude, les résultats, Kevin, qu'est-ce qui s'est passé sur les terrains occitans?
Alors, sur les terrains occitans, au niveau national, beaucoup de reports pour nos équipes, puisque Rodez en national devait jouer à Chambly, ça a été reporté. Idem pour Tarbes-Colomiers, qui se rencontrait normalement ce week-end, reporté aussi. Et c'était, si je ne me trompe pas, en national 3, une journée de match en retard, donc on n'avait pas d'équipe de la région qui était engagée. Donc moi je vais faire un point principalement sur le Tarn-et-Garonne, puisque c'est le département que je couvre pour Footpi. Donc avec une victoire à Revel pour Golfech, qui est en régional 1, et qui du coup se replace au classement avec cette belle victoire. Je vérifie mon classement. Donc il se positionne à la 8e place, donc au milieu du classement, sachant que Revel était dernier. Et du coup, voilà, ils font un peu le trou, puisqu'il n'y a que le dernier qui descendra en fin de saison. Ensuite, en régional 2, Montauban, c'était un derby, il recevait Caz, qui l'a emporté 2-1. Grisol, qui après une lourde défaite la semaine dernière, est allé gagner à Saint-Jean. Et ça fait du bien au président et au coach et aux joueurs de Grisol. Donc pareil, qui se replace et qui passe d'ailleurs devant leurs homologues du Tarn-et-Garonne, Caz. Et un peu plus bas, on a des équipes en promotion de ligue qui, mis à part Confluence, Beaumont qui est un peu en difficulté cette saison, c'est-à-dire que Bressol, Confluence, Mozac ou la Française sont bien positionnés dans leur classement respectif, sachant que Bressol s'est imposé contre Toulouse, AC, Castelmoissac, Confluence à Nyanès et Mozac aussi s'est imposé ce week-end. Donc nos représentants du Tarn-et-Garonne sont en bonne passe pour se maintenir et monter en régional 2 l'année prochaine. Au niveau du Tarn-et-Garonne, je vais être assez bref, puisque très peu de matchs, beaucoup de reports encore une fois. En excellence, l'Avid, qui est leader incontesté depuis le début de saison, est allé gagner 1-0 au Mas-Grenier. Alors j'ai eu le coach du Mas-Grenier et un des joueurs au téléphone. Ils ont un peu en travers de la gorge le but qui a été marqué à la 95e minute sur un ballon qui ne serait pas rentré a priori. Bon, après ça.
Contre la goal line, hein, elle n'y est pas. Hein.
Voilà.
Surtout que je connais le buteur, c'est Michael Brel, et je suis sûr qu'il a dû donner un effet au ballon, encore le connaissant.
Donc, la Vite, du coup, s'est encore imposé et conforte sa première place. Et le FC Brulois, qui est second et qui est allé s'imposer chez la réserve de Golfech, 3-0. Enfin, du coup, l'équipe de Alain qui s'est inclinée contre Toulouse Métropole, 5-1. Chez lui. Et enfin, une équipe que je veux mettre en valeur, entre guillemets, c'est l'équipe des U15 de Malose-Saint-Nicolas, avec un très très bon travail de Cyril Ardourel, qui du coup est en accession de DH en U15 et qui fait un très très bon travail, qui a fini première sur sa première phase et qui est du coup sur une deuxième victoire en deux matchs. sur l'accession en DH. Donc voilà, je voulais un petit peu en parler parce qu'il fait un très très bon travail depuis plusieurs saisons avec Malos Saint-Nicolas en U15.
Et puis un beau départ, un beau démarrage pour 2018 pour le coup. Alors messieurs, bon, cette équipe pour le coup n'a pas joué ce week-end, mais c'est Rodez qui suscite quand même pas mal de regards cette saison. On croyait à, enfin, pas un feu de paille, mais on se demandait s'ils allaient tenir la cadence. On est un petit peu plus que la moitié de la saison. Ils sont encore en course pour monter en Ligue 2. Est-ce qu'on peut vraiment croire à une promotion en Ligue 2 pour Rodez, Kevin ?
Il faut toujours y croire. Tant que c'est possible mathématiquement, il faut y croire. Surtout qu'ils sont quand même sur une dynamique positive. Donc, quand on y est, les joueurs, on a tendance à penser qu'ils marchent sur l'eau. Enfin, certains. Et quand c'est comme ça, ils peuvent soulever des montagnes. Donc, tout est possible. On a vu des scénarios improbables ces dernières saisons en National ou même en Ligue 2. Donc, à eux d'y croire. Et puis, je pense que toute l'Occitanie est derrière eux. Donc,
Vous suivez un petit peu le parcours de Rodez, Alain, j'imagine.
Oui. Oui, parce que j'ai aussi quelques connaissances là-bas de joueurs, comme Rémi Boissier, que je salue s'il nous écoute, et qui joue à Rodez depuis quelques années, et pour des fois aussi avoir eu l'occasion de discuter avec lui. Ils sont en train de faire une grosse saison, et c'est vrai qu'on est tous derrière eux. Et c'est important pour la région d'avoir des maximums de clubs au plus haut niveau, parce que ça rehaussera forcément le football, les autres équipes, et ça donnera bien une image positive de notre région, quoi. Donc oui, à fond derrière.
À fond derrière les Rodésiens. On va passer à vous maintenant, Alain. Merci Kevin pour ce point complet sur les résultats du week-end. Alors Alain, vous avez 44 ans depuis un mois et quelques jours.
Oui.
Vous êtes né à Castelsarrasin et comme Flo Hurtal qui était à votre place la semaine dernière, vous êtes un Toulousain pur souche. En tant que joueur, vous êtes passé au club de Castelsarrasin, à Gandalou, Montec, Villebrumier, Masgrenier, enfin Montauban. Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours en tant que joueur d'abord ?
Oh, en tant que joueur, pas grand-chose, même si j'ai vécu quelques montées, notamment à Gandalou, parce que c'est bon, maintenant c'est Castelsarrasin Gandalou, mais avant c'était que Gandalou. Bon, et c'est là que j'ai tout commencé en fait, donc c'est beaucoup de souvenirs. Voilà, après très rapidement, comme j'ai voulu vite passer en poste d'entraîneur, puisque à 14 ans j'ai décidé de pas de mettre de côté ma carrière de joueur, mais j'ai beaucoup plus de gros souvenirs en tant qu'éducateur, entraîneur, plus que joueur, quoi. Voilà. Après, on commence toujours joueur, donc forcément, voilà. Donc, je considère pas avoir fait une grosse. Le plus haut que j'ai joué en tant que joueur, c'est les promotions de ligue, hein, à Gandalou d'ailleurs. C'est là que je l'ai connu. Mais après, voilà, j'ai très vite mis de côté ce statut de joueur pour passer à un statut d'entraîneur, quoi.
Justement, Alain, pour rester très rapidement, du coup, pour le moment où vous étiez sur la pelouse, quel type de joueur est-ce que vous étiez sur un terrain ? Est-ce que vous étiez plutôt calme, plutôt posé ou au contraire un tempérament plutôt virulent ?
Non, j'étais pas très agréable envers les arbitres, si c'est ça qui est déjà peut être posé. Non, j'étais un râleur, j'étais un véritable râleur. J'avais horreur de perdre. Bon, ça, c'est plutôt le côté compétiteur. Comme beaucoup, j'ai commencé devant, j'aimais bien jouer devant, et puis ma vitesse fait qu'on m'a fait reculer et j'ai fini derrière. Et pour après, voilà, vraiment, quand j'étais sur la fin, pour jouer, repartir devant. Mais bon, j'ai beaucoup plus évolué en poste défenseur, mais râleur et un peu caractériel quand même. Peut-être pas facile pour mes coachs, peut-être.
Alors ben justement, coach, vous l'êtes devenu, Alain, vous êtes passé du côté de la ligne, alors de l'autre côté de la ligne. Alors cette transition, elle s'est faite naturellement pour vous, ou est-ce que, pour le coup, si à 14 ans on vous a donné quelques responsabilités, c'est que vous pensiez déjà, on va dire, endosser ce rôle-là ?
En fait, au départ, c'est un peu de hasard, puisque j'étais à section sportive, j'étais joueur de section sportive de 4e, 3e, parce qu'à l'époque, la section sportive, c'était que 4e, 3e, il n'y avait pas de la 6e, 5e. Donc j'étais en 4e, 3e, j'étais en section sportive à Moissac, parce qu'il y avait un sport études à Moissac à l'époque. Et puis à l'année 3e, je me suis fait une entorse à la cheville. Et puis à l'époque, quand on faisait une entorse à la cheville, c'était le plâtre direct. C'était le plâtre, il n'y avait pas d'attelle à scratch, tout ça, ça n'existait pas. C'était le plâtre bien blanc, bien lourd, et voilà. Et donc j'ai été immobilisé. Et puis le mercredi après-midi, donc j'allais plus à l'entraînement de la section sportive et j'allais au terrain de Gandalou, qui était même pas un kilomètre de chez moi. Et un jour, en poussin, parce que c'était les catégories de l'époque, en poussin, l'entraîneur, qui était une femme, n'était pas là. Et donc le président, qui est mon voisin, qui est toujours mon voisin d'ailleurs à la maison, me dit, bah, t'as qu'à les prendre. Parce que vous savez, dans les clubs, c'est un peu ça. Hein. Et puis je les ai pris, puis ça m'a plu. Ça m'a plu. Je l'ai pris 2-3 mercredis, ça m'a plu. Puis comme on arrivait en fin de saison, j'avais plus de match en section sportive. Et donc j'ai demandé à mon coach, qui à l'époque c'était Max Durieux, qui a été longtemps à Castelmoissac, j'ai demandé s'il pouvait me libérer le mercredi après-midi pour aller entraîner. Et donc je suis allé là tous les mercredis après-midi jusqu'à la fin de l'année. Et puis après j'ai continué. J'ai suivi l'équipe que j'avais commencé en poussin et je les ai suivis jusqu'au senior. Donc il y a toujours eu à peu près 5 ans de différence entre eux et moi en fait. Puis j'ai passé mes diplômes, j'ai voulu aussi, parce qu'à l'époque il y avait encore l'armée, donc j'ai dû faire mon armée et donc pendant 10 mois, mais je l'ai fait très très loin, je l'ai fait à la caserne Maresco à Castelsarrasin, donc ça me permettait et j'ai profité de ces moments pour passer mes diplômes justement. Et donc, pourtant, au départ, quand j'ai passé mon premier diplôme, on nous avait posé la question, qui c'est qui veut aller au brevet d'État ? Moi, je n'avais pas levé le doigt. Je ne me voyais pas du tout aller là. Pour moi, c'était inaccessible, le brevet d'État. C'était quelque chose qui était... Voilà. Et puis, une formation, puis ça m'a plu. Et puis, je me rendais compte qu'à un moment donné, j'étais limité avec l'équipe que j'avais et que j'avais d'autres choses à leur apporter. Et donc, pour ça, il fallait que j'aille me former. Donc, j'étais allé me former et j'ai continué. Et voilà, j'ai fait... jusqu'à maintenant, et ça s'est fait naturellement, oui, et puis j'étais très motivé par rapport à tout ça, quoi. Voilà.
Alors, justement, dans une interview accordée à Footpi il y a de ça quelques années, Alain, vous retraciez votre parcours, et en aviez profité pour remercier, je pense que c'est celui de qui vous parlait, un certain Angelo Bordigno, qui vous a tendu la main en quelque sorte. Oui. Du coup, on peut dire qu'il y est pour beaucoup dans votre carrière de coach.
Ben oui, c'était outre mon voisin, c'était le président du club de Gandalou. Et donc, c'est lui qui aussi, lorsque j'avais, je crois, 18 ans, 19 ans, 20 ans, m'a donné l'équipe 1. Les seniors, donc j'entraînais mon ancien entraîneur, et je me rappelle mon premier match c'était à Cahors, je me rappellerai toujours qu'on avait fait match nul d'ailleurs, mais ça s'était fait naturellement et donc comme j'arrivais déjà malgré tout avec une grosse expérience chez les jeunes, les gens qui étaient plus vieux que moi forcément parce qu'en senior il y avait forcément des joueurs qui étaient plus vieux que moi, j'ai toujours été très bien respecté et tout. Alors, est-ce que mon parcours précédent a fait que ça a daigné du respect? Peut-être, mais en tout cas, c'est lui qui m'a quand même lancé dans le bain, quoi. Ouais, effectivement.
Parce que c'est vrai que c'est, mine de rien, c'est assez atypique. Vous disiez que vous avez à chaque fois 5 ans de plus dans le vestiaire. Comment ça se passait? Il n'y a jamais eu de quiproquo?
Ça s'est fait naturellement. Alors, je ne vous cache pas que les premiers matchs et les premiers entraînements, j'avais un peu la pression, hein, parce que... Ouais, c'est pas évident à 20 ans d'entraîner une PL, parce qu'à l'époque on était en promotion de ligue, l'entraîneur n'avait pas été conservé avant la trêve. C'était déjà un peu la mode de se séparer des entraîneurs. Et à l'époque même, je cumulais un peu, j'avais déjà les 17 qui étaient montés en ligue. Donc je cumulais un petit peu, mais j'arrivais quand même à faire tout, mais... Au début, c'était quand même pas évident. Puis donc, c'est pour ça que je remercie Angelo Bordignon de m'avoir lancé, parce que c'est quand même un président qui lance un gamin de 20 ans. Hein. Donc, c'est parti de là, quoi. Tout est parti de là. Donc c'est pour ça que je le remercierai jamais assez.
Alors à Montec, Alain, vous parvenez notamment à replacer le club en Ligue avant de côtoyer Masgrenier en PH, bon, R3 pour le coup. Oui. Il y a eu une sorte de progression, de montée en puissance, on va dire, à mesure que les saisons avançaient, vous parveniez à découvrir un niveau supérieur avec des objectifs forcément plus ambitieux.
Oui, alors quand l'histoire montéchoise, c'est pas très très bien terminée sur la dernière année. Il y avait des histoires de personnes aussi et tout. Donc moi, je voulais continuer à entraîner, je voulais pas reculer. Et donc de l'APL, je suis passé aussi. D'abord, j'ai fait une année en excellence à Villebrumier, entre les deux, entre Montech et Masgrenier. Parce que je voulais rejoindre un joueur avec qui j'avais beaucoup d'attache, c'est Benjamin Doban, qui a joué après, qui était parti à Castanet, qui est maintenant revenu à la S de Pont à Villebrumier. Et par contre, après, voilà, après à Villebrumier, je suis parti à Masgrenier parce que j'ai eu la chance de rencontrer un énorme monsieur, un énorme président. C'est monsieur Bernard Labrou, qui est le président de Masgrenier. Qui vraiment, Masgrenier, c'est un club atypique. La deuxième année, je ne l'ai pas terminé pour des raisons et familiales et on va dire, sportives. J'ai toujours été très, très bien accepté. J'avais démissionné au mois de janvier après un match contre Auch. Puis j'avais eu des soucis familiaux, avec notamment la perte de mon père, et donc j'étais un petit peu dans le dur, quoi. Et le club a validé et accepté mon arrêt, quoi. Mais j'ai passé une année et demie formidable, parce que c'est un club, il y a 40 joueurs seniors, il y a 40 dirigeants, mais il y a 40 dirigeants potentiels, des gens qui sont vraiment là. Et c'est vraiment une famille, quoi. C'est vraiment une seconde famille. J'y ai passé un an et demi. J'avais l'impression d'avoir passé 10 ans, quoi. Et chaque fois que j'y reviens, c'est chaque fois que je peux aller les voir jouer, je vais les voir jouer. C'est un club vraiment que je garde d'énormes souvenirs, même si ça s'est pas terminé.
C'est votre meilleur souvenir en tant que coach, votre meilleure expérience justement ?
Non, en tant que coach, ma meilleure expérience, ça sera là. Un jeune, quand je suis parti après à Montauban, puisque je suis parti à Montauban, en fait, après Masgrenier, j'en avais un peu marre du football des seniors. Je commençais à ne plus pouvoir suivre. Et donc, je me suis dit, voilà, où je repars un jeune, mais à un bon niveau, ou alors un autre challenge. Mais bon, j'étais vraiment pas prêt à repartir en senior. Et puis, au départ, à Montauban, il n'y avait pas de place. Les postes étaient pris. Et puis, l'entraîneur, à un moment donné, a démissionné. A annoncé qu'il ne repartait pas finalement l'année après, alors qu'il aurait dû repartir. Et me voilà parti à Montauban. J'arrive à Montauban avec toute humilité, sans aucun objectif sportif ou quoi que ce soit. Je recôtoie des joueurs que j'avais côtoyés en section sportive. Et puis cette année-là, on monte à nationaux. Et là, forcément, c'est une année qu'on peut difficilement oublier parce que c'était pas du tout prévu. Hein. C'est 2012-2013, c'est pas du tout prévu. À la trêve, on se retrouve avec déjà une dizaine de points d'avance. Donc là, je vois mon président et je dis bon. Si on fait la moitié du parcours en deuxième période pareil, on risque de se retrouver à nationaux, président. Donc, qui dit nationaux, dit Girondins de Bordeaux, tout ça, quoi. Nantes, Châteauroux, tout ça. Et donc, je vois qu'on valide certaines choses. Et puis, il dit, on y va. Hein. Et puis, deuxième phase, on se réunit et il dit, là maintenant, il faut essayer de monter. Donc on est arrivé à monter, c'était pas prévu. Franchement, c'est pas de la mauvaise volonté ou quoi de dire non, mais c'était calculé. Non, c'était pas du tout prévu. Et donc forcément, sportivement, c'est la plus belle parce que la montée à nationaux, en tant que joueur, je pense que j'aurais jamais joué à ce niveau-là et j'ai eu la chance en entraîneur d'entraîner à ce niveau-là. Après, il y a beaucoup de choses qui se sont pas passées comme on aurait aimé qu'elles se passent, mais en tout cas c'est une très grosse expérience et ça c'est la plus belle et puis après les on va dire c'est la plus belle mais par contre après voilà les premières montées que j'ai connues à Gandalou quand j'avais 16 ans comme entraîneur avec les pupilles à l'époque qu'on est monté en Ligue, on a gagné la Coupe du Tarn-et-Garonne. Bon, c'était les premières montées, donc forcément, c'est celles qu'on oublie difficilement aussi. Mais en termes sportifs, la montée à nationaux, c'est magnifique.
D'autant qu'elle s'obtient à l'issue de votre première saison à
Montauban. Je venais d'arriver, puis en plus, elle s'obtient. Le premier match, on va à Saint-Gaudens cette année-là, on prend 3-0. Et puis, j'ai dit, c'est mal barré, il va falloir s'accrocher. Puis moi, je dis aux joueurs, il va falloir s'accrocher pour se maintenir. Et puis, il y a un joueur qui me dit, non, mais t'inquiète pas, Alain. Il me dit, tu verras, à la fin de l'année, on va monter. J'ai dit, on va monter. J'ai dit, bah, écoute, allez, je prends le pari. Si on monte, le dernier match, je le fais en costume. Heureusement que je n'ai pas dit, je le fais en soutane et je tourne autour du terrain ou quoi que ce soit. Et donc, j'étais obligé donc, de faire le dernier match en costume contre Saint-Gaudens, qui était le match donc, retour à l'époque. On a aussi perdu contre une qui, en plus, qui descendait. On a aussi perdu, mais bon, on est quand même allé au bout. Ce joueur-là, après on en reparle, on en rigole forcément, mais c'est pour ça que ben, malgré faire un début de saison, un premier match où on avait perdu assez sèchement hein, quand même, et bien on se retrouve à la fin à jouer. Et on finit l'année, en plus on finit l'année je veux dire, avec plus de 10 points d'avance. Et à 4 journées de la fin, en gagnant Lourdes, on était sûr de monter, et on gagne le match 7-1, un truc comme ça. Au Soulou, ça tombait que c'était chez nous, donc forcément c'était un peu la fête le soir, mais voilà, c'est à 4-5 journées de la fin, on était déjà nationaux. Je crois que c'était jamais arrivé qu'il y ait autant d'écart entre le premier et le deuxième pour monter à nationaux, donc c'était une sacrée saison. Hein.
Alors Alain, vu que vous avez pu côtoyer du coup les deux mondes en quelque sorte, qu'établiriez-vous comme différence entre la catégorie senior et moins de 17? Alors l'âge bien entendu, mais quel groupe est le plus facile à prendre en main?
Facile, je ne sais pas. Par contre, pour moi, il y a deux caractéristiques entre les seniors et les jeunes. C'est que les seniors ont tendance, quand c'est dur, à tricher. C'est-à-dire que bon, quand ils sentent que la séance va être dure, il y a quelques douleurs musculaires qui apparaissent, qui viennent à l'entraînement, mais coach, je ne fais que courir parce que bon, j'ai un peu mal, voilà. Des gardes d'enfants qui apparaissent une demi-heure avant le début de l'entraînement. Je ne peux pas venir, ma femme n'est pas rentrée, je dois garder les enfants. Des repas intempestifs qui apparaissent aussi, quand ils sentent que c'est dur. Voilà. Mais par contre, le jeune, lui, il va râler, mais il va le faire. Donc, moi, et ça, c'est une grosse différence qu'il y a entre le football senior et le football des jeunes. Après, j'en parlais tout à l'heure avec Kevin, on se rend compte qu'aujourd'hui, enfin moi je me rends compte qu'aujourd'hui, pour avoir vu passer plusieurs générations de jeunes, puisque j'en viens sur les jeunes, il y a de moins en moins de passionnés. En fait. Il y a trop de choses autour du football qui font que, voilà, ils sont là. Moi j'ai l'impression que beaucoup, les jeunes, sont là pour consommer quelque chose en fait. Et donc
et
moi à Montauban...
Comment ? Et plus par plaisir, c'est ça ?
Et moins
sorte.
Par plaisir. Ouais. J'ai plus l'impression que, et surtout moi je le vois à Montauban, parce qu'on est au plus haut niveau de la catégorie, sauf bon, je mets de côté la catégorie nationale, évidemment, le 17 nationaux, mais on a l'impression que les gens viennent consommer du niveau. C'est-à-dire qu'on vient à Montauban pour jouer en Ligue Honneur ou en Ligue, mais pas forcément pour une attache à un club ou une identité, etc. Et que si jamais, ben, ma foi... on se maintient pas ou on doit redescendre, t'inquiète pas mon fils, je vais t'amener à 40 bornes, 2 fois 40 bornes aller-retour, 3 fois par semaine, et tu vas jouer au niveau où tu as envie de jouer, pas forcément au niveau où tu as le niveau de jouer hein. Mais donc c'est là qu'est un peu compliqué, et la deuxième chose à gérer que t'as pas à gérer chez les seniors et qu'il faut gérer chez les jeunes, c'est les parents. Voilà, ça peut devenir une maladie dans le football, les parents. Voilà, s'ils ne gardent pas leur rôle de parent, voilà, et pas leur rôle d'entraîneur, éducateur. Voilà.
Est-ce que le fait du côté de la passion n'a pas le reflet aussi sur les éducateurs aujourd'hui qui, à un moment donné, faisaient, je sais pas moi, 5, 10 ans des fois, ou même, enfin voilà, étaient fidèles à leur club. Aujourd'hui, c'est pareil, dès que ça va pas, on change. Oui. Donc c'est le reflet un peu, enfin nos jeunes, est-ce qu'ils ont pas cette... Enfin même en pro d'ailleurs, hein, les pros aujourd'hui, dès que ça va pas, au bout de 6 mois, ils veulent partir. Quoi.
Mais le problème, c'est que si déjà on a du mal à trouver des éducateurs passionnés, après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait du mal à avoir des joueurs passionnés. Si déjà l'éducateur ne sent pas cette passion-là, c'est difficile. Déjà, comme il est censé transmettre quelque chose, si déjà il ne transmet pas sa passion, ça va être compliqué. Donc, ça, on le ressent. Enfin, nous, on le voit aussi dans les éducateurs, tout ça. Il y en a aussi d'abord qui gèrent la partie financière avant de gérer la partie sportive. Donc voilà, Déjà, si, puis il y a une autre différence, c'est que si justement l'éducateur il fait ça, à un moment donné, si ça tend vers le financier, il ne faut pas entraîner chez les jeunes. Hein. Ça ne sert à rien. Parce que financièrement, chez les jeunes, c'est peanuts, quoi. C'est rien du tout. Quand on voit ce que proposent des fois des clubs de PL Excellence dans notre département, hein, parce que bon, voilà, et ce que propose à côté un jeune, même à de la HL ou de la PL ou quoi, c'est pas du simple au double, hein. C'est du simple au triple, ou, voilà. Donc, quand on va entraîner chez les jeunes, moi je suis chez les jeunes par passion, mais pas pour une raison financière. Hein. Parce qu'à un moment, ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin de. Tout le monde a besoin d'argent. Hein. Mais à un moment donné, voilà, moi je connais mes limites et je sais que voilà, si j'en faisais une affaire financière, je ne serais pas resté, je serais pas revenu un jeune. Je serais resté un senior et puis j'aurais doublé ou triplé peut-être ce qu'on me donne. Mais voilà, mais bon après ça c'est chacun qui voit. Hein.
Alors justement, Alain, pour le coup, vous êtes resté en U17, en HL depuis 2014, avec des saisons plus prolifiques que d'autres. Alors on se souvient aussi bien de la saison 2015-2016 où vous échouez de peu à retrouver l'échelon national. C'est une défaite 2-0 à domicile contre Colomiers qui vous prive de l'accession.
Ouais. Il fallait absolument gagner. C'était une génération, la génération des joueurs qui sont nés en 2000. C'était la génération des joueurs 99-2000. 2000, on avait une grosse promotion au club de Montauban avec des très bons joueurs. Et là aussi, au départ, c'était pas quelque chose de. Parce que les 2000 étaient première année, donc c'était des U16. Là aussi, c'est quelque chose qui. Bon, on a eu du mal à démarrer. Des joueurs ont eu du mal à s'intégrer à ce niveau-là, hein, des premières années notamment. Et puis ça s'est fait au fur et à mesure. Colomiers a un petit peu baissé le pied à un moment donné pendant que nous, on a enchaîné les victoires. Et on s'est retrouvés à jouer tout sur la dernière journée. Là, on avait un petit peu plus préparé l'après-national si on était monté. Ce que peut-être on n'a pas très bien fait lorsque c'est arrivé la première fois. Là, j'avais mis, on va dire... J'avais demandé certaines garanties de fonctionnement dans l'éventualité qu'on revienne au niveau national pour éviter de faire l'ascenseur et voilà, au moins dans la façon de fonctionner. Mais voilà, cette année-là, c'est pareil, ça s'est joué sur la dernière journée. Hein. C'était pas forcément prévu. Bon, après, sur ce match-là, Colomiers nous a été supérieurs. Le regret, c'est que j'avais perdu mon avant-centre. Deux matchs avant, suite à son troisième jaune, qui n'a pas pu jouer, donc on va dire la finale de championnat. Mais bon, là où il prend son troisième jaune, c'était une demi-finale de coupe. Devais-je le préserver à la Unai Emery, je peux pas me permettre. Moi, les compétitions, je les joue tout à fond, quoi. Après, bien sûr, avec le recul, on dit, il fallait pas le faire jouer. Oui, mais bon. Oui,
après coup, c'est toujours plus facile.
Voilà, c'est très simple comme ça. Mais bon, voilà. Donc, j'aurais aimé quand même prendre Colomiers avec vraiment tout mon effectif possible. Bon, après, ça fait que voilà, c'est comme ça, mais c'est dommage.
Cette saison, Alain Montauban aligne trois équipes en moins de 17. Alors c'est important pour le coup, pour le coach de la première que vous êtes, d'avoir un gros vivier de joueurs sur lequel s'appuyer, j'imagine.
Oui, alors bon, après, cette équipe 3 a vu le jour il y a plus de 3 ans, 4 ans, parce qu'il y avait voilà, on a les effectifs à Montauban qui ont été vraiment... on a vraiment du monde, donc forcément on était obligé de créer une troisième équipe à l'époque. Bon, en plus, on les a toutes à tous les niveaux, donc on a une HL, une PL et une district, donc c'est important d'avoir effectivement des équipes réserves pour essayer de, voilà, de faire jouer ce qu'on considère être les meilleurs ou tout au moins les plus complémentaires en équipe 1. Mais après, il n'en reste pas moins qu'on a toujours des écarts de génération en nombre et en qualité depuis l'âge de 13 ans, par exemple, et on a du mal après à les corriger, en fait. Et donc, on arrive des fois sur des saisons, une année sur deux, où on a une génération qui est intéressante footballistiquement, mais par contre, en nombre, faible. Là, pour vous donner une idée, par exemple, là, la génération actuelle, des U16 et U17, en U16, moi, en équipe 1, en promotion, en Ligue Honneur, je joue avec 90% de première année. Parce que les deuxièmes années, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, voilà. Alors, quand ces deuxièmes années-là étaient donc première année avec la génération des 2000, ce n'était pas gênant parce que la génération des 2000 était une génération et nombreuse et de qualité. Mais là où on aurait besoin, voilà, là où aujourd'hui ces joueurs 2001, là, sont deuxième année, là, pour ça qu'on souffre. Hein, ça s'explique beaucoup pour ça.
Alors justement, pour rester dans l'actualité, Alain, vous avez subi une lourde défaite à domicile contre Toulouse Métropole hier, 5-1. Alors c'est un adversaire que vous auriez pu dépasser en cas de victoire, oui, mais qui vous relègue à 5 points. Vous êtes actuellement avant-dernier de R1. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette défaite?
Oui. De toute façon, quand on produit un match comme on a produit hier, on est à notre place. Déjà, c'est la première chose. Je pense que justement l'effet de la jeunesse de notre équipe, de mon équipe, a fait qu'on est passé à côté. Ce genre de match-là, moi, j'avais pas plus la pression parce que bon, voilà, j'ai quand même un peu d'expérience, donc j'ai pas eu l'impression d'avoir passé un message, un petit peu de pression justement à la causerie. Justement, j'ai essayé de faire un petit peu redescendre parce que les joueurs forcément se la mettent directement. Vous savez que c'est un match important. Donc si en plus on le répète pendant 10 minutes de causerie, hein, c'est important, au bout d'un moment ils sortent. Et en fait on a passé notre temps, j'ai vu 14 joueurs de Montauban apeurés. On jouait toujours en tremblant, tout ce qu'on faisait on le ratait, ou alors dès qu'on le ratait, ben on cherchait la sécurité, que toujours à jouer en soutien, donc derrière, et pas jouer vers l'avant. Et donc j'ai pas reconnu ces joueurs là qui où on était un petit peu revenu un petit peu, c'était nettement mieux. Et voilà, donc comme je l'ai dit, faut féliciter TMF parce que eux, ils ont su prendre le match comme il faut, mais ils sont pas tombés contre Montauban, contre le vrai Montauban. Bon, après c'est comme ça, et il faut que ça leur serve à grandir. Daniel Tristan, le CTD, était venu au match et est passé aussi tenir ce discours là à la fin du match, parce que bon, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont failli, mais on les connaît, ils les connaissaient aussi, et ils disent, mais c'est pas vous, quoi. Et donc bon, voilà, et je pense que ça, c'est ce côté un petit peu trop jeune qui a fait que on n'était pas au rendez-vous.
Bon, on espère que la barre va se redresser pour Montauban. Alors, en parallèle justement du coaching des moins de 17 de Montauban, Alain, vous êtes également responsable de la section sportive U15 au collège Saint-Théodard. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, surtout la manière dont vous gérez cette double fonction, entre guillemets?
Oui, alors la section sportive a 15 ans en fait. Ça fait 15 ans qu'elle a été créée en collaboration bien sûr avec le district et surtout, la charnière principale, c'est Daniel qui a créé ça. Et donc, en fait, ça s'est ouvert de la 6e à la 3e. Donc, ça va sur des enfants jusqu'à U15. Et donc, ça a toujours été quelque chose qu'on a toujours été d'accord. Moi, j'ai pris une catégorie U17. Donc, ce ne sont plus des joueurs qui sont en section sportive. Pour ne pas faire l'amalgame. Si par exemple j'avais pris les U15, pour ne pas faire l'amalgame entre la section et... Parce que la section, ce n'est pas le MFC. Voilà, bien évidemment, la plupart font partie du club du MFC parce que ce sont des joueurs U15 ou U15 élite, U14 ou U15 élite. Donc voilà, mais bon, c'est quand même deux choses qui se veulent être différentes. Moi, ça fait donc 15 ans que je suis responsable de la section sportive. C'est ma bouffée d'oxygène en fait. Voilà, c'est un peu et la bouffée d'oxygène et le laboratoire. C'est là où on essaye des choses en fait. Et donc c'est pour ça que ça fonctionne bien. Je fais bien la différence entre mon coaching U17 et mon coaching section sportive. C'est le même jour, les entraînements, puisque les entraînements moi, que j'ai de mon groupe en section sportive, c'est le lundi après-midi et le jeudi après-midi. Et mes entraînements U17 à Montauban, c'est le lundi soir et le jeudi soir. Donc, je sépare bien les deux parce qu'on l'a voulu comme ça aussi. Parce qu'on veut pas que. Voilà, c'est pas la section sportive du MFC, c'est une section sportive qui est ouverte à tout enfant. C'est dans un collège privé, ça c'est notre petit peu, peut-être, difficulté. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas penser qu'on a toujours que les meilleurs joueurs en section sportive, parce que c'est un privé. Donc il y a peut-être des gamins qui sont meilleurs que ce que l'on a, mais par contre, qui ne viennent pas. Pour des raisons financières, organisationnelles ou quoi, à la section sportive. On serait peut-être dans un public, ce serait peut-être avec un niveau peut-être différent. Mais bon, malgré tout, on y arrive quand même, puisqu'on a 15 ans d'existence, donc ça se passe bien.
Bon, pour finir, Alain, projetons-nous. Est-ce que vous aspirez à rester entraîneur d'une équipe jeune encore longtemps, ou est-ce que vous pensez quand même bientôt, ça reste relatif bien entendu, reprendre en main une équipe senior ?
Franchement, je pense pas être encore prêt à repartir à un groupe senior. Attention, en mettant bien sûr des garde-fous là-dedans, ça dépend bien sûr aussi du niveau, du projet sportif, etc. En tout cas, rien ne me fera dire que les jeunes, même si les résultats sont négatifs, j'en assumerai aussi mes responsabilités aussi. Mais non, pour l'instant, je suis encore dans le football des jeunes, mais ouvert moi j'ai un diplôme qui me permet d'entraîner jusqu'à R1, jusqu'à division d'honneur, enfin maintenant après on va dire ex-division d'honneur, donc voilà. Mais après j'habite à Gandalou, je travaille sur Montaigne, j'ai la section sportive, je suis bien là dans ce que je fais, donc ça va.
Bon, très bien, en espérant le maintien pour les U17 de Montauban, ce sera un premier beau cadeau pour 2018, ça j'imagine.
Oui, tout à fait.
Bon, on espère en tout cas. Alain, pour terminer sur l'interview, on va passer à des questions un petit peu plus légères, dans le modèle tac au tac, que Kevin de Footpi connaît bien. Si je vous demande, Barça ou Real ?
Barça.
OM ou PSG ?
OM.
OM, j'imagine. Alors bon, OM-Barça, du coup, si je vous dis supporter du Real mercredi, du coup ?
Je suis français.
Oui.
Mais quand même, pour le match, pour celui-là, je suis pour le Real. Ouais.
Bon. Bayern ou Dortmund ?
Bayern.
Pep Guardiola ou José Mourinho ?
Pep Guardiola.
Didier Deschamps ou Zinedine Zidane ?
Didier Deschamps.
Vicente Del Bosque ou Marcello Lippi ?
Marcello Lippi.
Éric Guéretz ou Marcelo Bielsa ?
Ah, Éric Guéretz.
Chris Waddle ou Didier Drogba ?
Chris Waddle.
Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ?
Lionel Messi.
Andrea Pirlo ou Xavi Hernandez ?
Pirlo.
Andrés Iniesta ou Luka Modric ?
Modric.
Rugby ou basket ?
Ni l'un ni l'autre.
Tennis ou hand ?
Les deux.
Roger Federer ou Rafael Nadal ?
Federer.
Thé ou café ?
Café.
Chocolatine ou pain au chocolat ?
Chocolatine.
Pizza ou McDo ?
Pizza.
Mer ou montagne ?
Mer.
États-Unis ou Australie ?
États-Unis.
Italie ou Espagne ?
Espagne.
Blonde ou brune ?
Blonde.
Le retour de Montauban en top 14, c'est pour cette année ?
Oui.
Assuré.
Oui.
Si vous deviez coacher une équipe de Ligue 1, à part Marseille,
bien entendu. À part Marseille, encore moins. Amiens pour aller voir Olivier Lagarde.
Ouais. Alain Coronado, coach de la première de Montauban un jour, oui ou non ?
Pourquoi pas ?
La vidéo dans le foot, oui ou non ?
Professionnel ?
Oui.
Oui.
La France, elle peut la gagner cette Coupe du Monde ?
Oui.
Oui ? Bon, très bien. Très bien. Eh bien, beaucoup de bons voeux pour 2018. On espère que tout se réalisera. Avant de passer au quiz, messieurs, je vous propose d'écouter une chanson. Vous l'aurez deviné avec les différentes réponses d'Alain. C'est Jump de Van Halen qui résonne tous les week-ends au Vélodrome. On se retrouve pour le quiz juste après. C'était Jump de Van Halen, choisi par Alain Coronado. Là, si les gens ne savent pas que vous êtes Marseillais, Alain, là, on ne peut plus rien faire.
Hein. Non, mais ça va, ça va.
On ne peut plus rien faire. Messieurs, le rendez-vous habituel du lundi soir, le fameux quiz. Je vous vois concentrés tous les deux. Alors, 10 questions. Si vous pensez avoir la réponse en premier, vous donnez votre prénom. Et ensuite, la chance ou non vous sourira. Messieurs, vous êtes prêts ?
Oui. Je suis pas très beau, moi.
Alors, je le répète toujours, mais d'habitude, il y a Xavier qui est à la place de Kevin et qui dit très souvent qu'il n'est pas bon, qu'il n'a pas révisé, et il rafle tout.
Non, je suis pas bon, puis j'ai pas révisé.
Moi, quand j'écoute Xavier, il répond en 3 secondes, il met 20 réponses. Donc, en même temps, au bout d'un moment, il peut trouver la bonne réponse.
Bon, messieurs, première question. Force 4 pour une victoire 5-1.
Kevin ?
Oui.
City, avec Agüero qui a marqué un quadruplé, je crois.
Exactement. Le Kun Agüero qui a rugi pour sortir City du pétrin. Ils étaient tenus en échec un partout par Leicester et les Citizens ont vu leur attaquant argentin dynamiter le champion d'Angleterre 2016. Quadruplé, victoire 5-1 et une avance accrue puisqu'elle est de 16 points maintenant sur le rival United qui a été battu à Newcastle. Premier point pour Kevin.
Moi, 5-1, le seul 5-1, c'est celui que j'ai pris hier. C'est tout.
Deuxième question, messieurs. Eux, ils la veulent.
Alain ?
Oui.
Paris, la coupe
Non, ça s'est passé. Ça s'est pas passé sur le terrain.
C'est en Ligue 1 ?
C'est en Ligue 2.
En Ligue 2.
Un tifo, messieurs.
Ah, Kevin, c'est pour Lorient ?
Non.
Non ?
Un mais donc, tifo. Point pour moi, alors, lui, il a perdu.
Il ne manque plus que trouver la bonne réponse. Ah, oui. C'est le plus compliqué.
C'est sur un tifo ?
Oui, sur un tifo. Oui.
Que j'avais vu passer Lorient qui
à Lens, non ?
Oui.
Mais voilà.
Voilà, mais pourquoi ? Il y a un débat en ce moment. On veut amener une œuvre historique à Lens.
Ah.
Le maire fait pression sur Emmanuel Macron pour qu'une une célèbre œuvre soit dans le musée Lensois.
Baraque à frites.
Non. Allez, c'est un. Et en plus, je dis, ils la veulent. C'est une.
Une Coupe d'Europe.
C'est une dame qui figure sur cette fameuse œuvre.
La Joconde.
Oui. Et ben voilà. Et oui. Et oui, les supporters lensois ont dit un tifo assez original samedi, puisqu'ils ont emboîté le pas de leur maire qui a réclamé à Emmanuel Macron fin janvier l'exposition de la Joconde sur ses terres. Et donc les nouvelles sont allées très vite, puisque la Joconde est apparue sur une tribune de Bollard, avant peut-être de figurer dans un musée.
Alors je tiens à préciser, parce que j'ai M. Fétré qui me dit qu'il avait trouvé la réponse, mais je ne l'ai pas trouvée grâce à lui. Je n'ai pas regardé mon portable. Oui. Voilà, je tiens à le préciser.
Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Voilà, la Joconde, comme quoi, eh bien voilà, vous pourrez d'ailleurs voir l'image qui est assez, forcément, assez cocasse de la Joconde sur une tribune de Bollard. Ça n'a pas permis au RC Lens de l'emporter. D'accord. Peut-être la prochaine fois. Troisième question, messieurs. Prise de risque.
Oui.
Une photo prise de risque.
C'est sur la Ligue 1
Le grand rendez-vous qui arrive mercredi.
Prise de risque l'anniversaire de Neymar ?
Alors non, mais
dans les choix d'Emery ou
non.
Sur quelque chose de...
C'est pas par rapport à l'anniversaire de Neymar, mais vous vous rapprochez, Alain. Il y a une photo diffusée qui pourrait penser qu'il y a un risque de prix avant l'affrontement contre le Real Madrid.
Ah oui, il y a un joueur qui a dit que c'est sûr que Neymar jouera au Real.
Alors non, c'est pas ça. Ça aurait pu, mais ce n'est pas ça.
Pas de bol.
Mais vous êtes toujours dans le bon
tempo,
on va dire. Il y a
encore l'histoire de Neymar là-dedans.
Exactement. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Prise de risque.
Moi, il ne devait pas être déjà bien frais, donc...
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Il y en a plusieurs déjà qui étaient.
Il s'est pas entraîné ?
Non. Mais en parlant de frais, Kevin se rapproche encore plus.
Ouais. Du coup.
Mais il a fait la fête ?
Il a pas fait la fête, non. Mais imaginez-vous, frais, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps à Paris ?
Ah oui, ça y est, Kevin. Voilà. Il s'est pris en photo dans la neige.
Exactement. Si à quelques jours du tant attendu huitième de finale contre Madrid. La précaution est de mise du côté PSG, mais pas de quoi effrayer Neymar, apparu tout sourire sur la neige, seulement vêtu d'un bonnet et d'un short de Noël. Bon, pour le coup, il a prolongé le plaisir.
Oui.
2-1 pour Kevin. Messieurs, là, ça va être une question un petit peu plus de rapidité. Qui est le gardien qui totalise le plus de clean sheets en Europe cette saison?
Bonne question. Kevin, ça doit être le gardien de City? Non.
Le gardien du Barça?
Non.
France ou...
C'est en Angleterre.
En Angleterre. Il a joué beaucoup de matchs?
Oui.
Liverpool?
Non. Prends, il me faut le nom du gardien. Attention, ne pas donner le nom du club et de donner un caviar.
De Gea, United.
Oui, Kevin, exactement. C'est David De Gea, le portier espagnol, qui est parvenu à garder sa cage inviolée à 18 reprises.
Tu crois que c'était Schmeichel encore?
Ouais. Non.
Et le premier français, messieurs, c'est Steve Mandanda avec 16 matchs sans prendre de but. Voilà. Mais du coup, là, il n'en a pas fait de 17e puisqu'il a encaissé l'égalisation stéphanoise avant de se blesser. 4 questions de passé, 3-1 pour Kevin. La cinquième, messieurs, il y a eu match nul, mais le plus heureux n'était pas sur le terrain. Ça s'est passé en début de week-end.
Eh bien, c'est Étienne Marseille.
Oui.
Voilà.
Mais le plus heureux n'était pas sur le terrain. Qui ça peut être? Quelqu'un qui se réjouisse du match nul entre Saint-Étienne et Marseille?
Eh bien, c'est...
Eh bien, le mec de Lyon.
Oui.
Ben, Aulas.
Et oui, exactement. Exactement. C'est Jean-Michel Aulas qui s'est félicité du match nul entre l'OM et Saint-Étienne vendredi soir, notamment en prétextant une promesse des Stéphanois pour freiner les Lyonnais, les Marseillais plutôt pour le coup. Et je pense que voilà, sur Twitter, certains Marseillais ont dit que les Rennais avaient fait une promesse aussi,
oui,
vu qu'ils sont allés gagner à Lyon.
Le problème, c'est qu'ils parlent trop voilà, et ils parlent trop vite. C'est un problème.
Là, ça lui a fait défaut pour le coup.
Ah oui.
3-2, la première moitié de ce quiz, tout reste à faire. Sixième question, messieurs. Cristiano, j'ai trouvé ton remplaçant pour le futur. C'est Luis Campos qui avait tenu ses propos, mais de qui est-ce qu'il parlait?
Mbappé.
Non.
Mercredi.
Alors, c'est pas, on va dire, c'est pas une superstar actuelle. C'est un jeune qui a un énorme potentiel.
Je l'ai vu passer.
Qui est en Ligue 1. Qui évolue en Ligue 1.
Mitroglou.
Ce n'est pas Costas.
On vous le donne. je vois ce truc, je vois, mais je sais pas le nom.
Il joue pas en plus, si je me trompe pas.
Si, il joue.
Non, mais je veux dire, il joue pas dans un des trois clubs phares, je crois qu'il est ni à Paris ni à.
Avec trois clubs phares, vous entendez Paris, Monaco et.
Et Marseille.
Ah, ben pour le coup, non, c'est ces trois clubs phares là, non, il joue pas dans.
Voilà. Je l'ai vu passer, mais.
Mais c'est pas Mariano de Lyon?
Non, vous avez le club, mais pas le bon joueur.
Oui, mais je sais plus comment il s'appelle, lui.
Ah, si, ça y est, Kevin, c'est Depay.
Exactement. De même, fils Depay, il parlait, Luis Campos. C'est dans un entretien accordé à RMC, l'actuel directeur sportif de Lille, mais qui était aussi ancien scout du Real, a raconté avoir envoyé ce message à Cristiano Ronaldo, alors que Depay n'avait que 16-17 ans. Bon, malgré le gros potentiel qui est le sien, le Néerlandais ne peut pas encore se targuer de suivre les traces du quintuple Ballon d'Or, mais il n'a que 23 ans, alors. Pourquoi pas?
Enfin, il y a un peu de retard quand même.
Oui, malgré sa superbe lucarne contre Paris, qui a valu un mug, on le rappelle. Alors, la semaine dernière, messieurs, figurez-vous qu'on a bu une Jupiler pour parler de Bruges, leader du championnat belge. Cette semaine, on va manger des bintje. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Des patates.
Oui.
Oui, bon, malheureusement, ce n'est pas sur ça que le point se joue. C'est une variété exactement de pommes de terre créée aux Pays-Bas. Mais c'est qui le leader de l'Eredivisie?
Le leader de quoi?
De l'Eredivisie, le championnat néerlandais.
Kevin? Si je ne me trompe pas, Feyenoord. C'est Feyenoord.
Non.
Feyenoord c'est passé Kant, Ajax.
Non.
Twente.
Non, Twente est même relégable.
Ah,
mais je connais
que c'est Eindhoven.
PSV Eindhoven.
Je crois que c'est Kevin qui l'a dit en premier. C'est le PSV Eindhoven qui, pour le moment, survole le championnat néerlandais.
Il n'y a pas le replay.
61 points, soit 7 de plus que son dauphin, l'Ajax Amsterdam. Mais oui, messieurs, moi aussi, figurez-vous que j'étais choqué. Twente est très mal en points.
Il a dit un premier parce qu'il a dit un premier parce qu'il a dit Eindhoven. Moi, j'ai dit PSV Eindhoven.
Vous savez quoi ? Un point chacun.
Je suis fair play.
Très bien. 5 à 3 pour le coup. Il a 19 ans.
Bah, c'est Alain. Non,
c'est pas
ça. Non, ça, c'était longtemps.
Il a 19 ans et il a marqué les esprits, messieurs. Un joueur qui est passé par le Stade Malherbe de Caen et qui a marqué un but extraordinaire ce week-end, qui a notamment permis à une équipe de retrouver le succès après 7 matchs sans victoire. Ça ne s'est pas passé en France, mais dans un pays limitrophe.
Je regarde pas les championnats.
On les voit passer les infos, mais quand on est là après, pour les retrouver, c'est, bien c'est bien. Tout mélangé. C'est en Angleterre ?
C'est en Italie.
En Italie.
C'est... 19 ans, non. Je...
19 ans, c'est...
Ah, c'est pas le joueur de l'Inter, Caramo
oui.
ou quelque
chose Caramo,
comme...
exactement. Comme... C'est l'âge de Yann Caramo, le joueur de l'Inter, qui nous a gratifié d'une superbe réalisation ce week-end et ouais, a permis à son équipe de retrouver le succès. Messieurs, il y a 6 à 3. Il reste 2 questions. Donc, c'est une victoire pour Kevin. C'est une victoire pour Kevin, mais on va bien évidemment... jouer jusqu'au bout.
Essayer de réduire le score.
Quand même. Voilà, pourquoi pas.
Alain m'a battu cette saison. En match, je peux au moins le battre sur le quiz. Quoi.
Messieurs, 9e question. Pendant la Coupe du Monde, les Allemands espèrent la relancer. Mais de quoi s'agit-il ?
La bière.
Oui, exactement. Exactement, de la bière. Sa consommation est en baisse, figurez-vous. Et les brasseurs allemands espèrent que le mois de juin et juillet, les mois de juin et juillet serviront à la booster. Mais les prévisions restent quand même pessimistes. Dans un pays où, manifestement, eh bien, l'alcool se consomme avec modération, pour le coup. Ouais. Du côté de nos voisins allemands. Et dernière question, messieurs, il fait l'objet de critiques ces derniers temps, Alexandre Lacazette, et sa place en sélection suscite bien des interrogations. Mais combien de buts est-ce qu'il totalise en Première Ligue ?
Kevin, 2.
Non.
Non.
Lacazette ?
Oui.
5.
Non.
4.
Non.
3.
Messieurs, vous...
Non. C'est plus que ça, il en a marqué.
Oui, c'est plus.
12.
Non.
Ah non, il en est pas autant, je crois. En première ligue ou...
En première ligue.
En première ligue, 8.
Non.
7.
Non.
Et 9.
Et oui, 9 buts et 3 passes décisives pour l'ancien Lyonnais. Donc c'est une victoire pour Kevin qui manifestement continue dans sa belle dynamique.
Il écrase tout le monde.
Et il est en forme. Il est en forme, Kevin. Ouais. Messieurs, il est temps pour moi de vous remercier de m'avoir accompagné pour cette 12e émission d'Oxyfoot. Merci Kevin, merci Jean-Louis Arzac à la réalisation et bien sûr merci Alain d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir, je passe un petit bonjour à la cantine de Montech qui me nourrit tous les midis. Et je leur avais dit que je ferais un petit message. Et puis à tous ceux qui nous ont écoutés, merci. Et vraiment merci de l'invitation à Kevin. Et c'est avec plaisir que je suis venu ce soir.
Très bien. Eh bien, plaisir partagé à l'air. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la 13e édition. Déjà, la 13e d'Oxyfoot. Au revoir.